Merci beaucoup. On va passer au discours de clôture avec Michel Bourban et Valérie Masson-Delmotte. Et je vous laisse 10 minutes pour conclure ces 2 jours, ces 2 beaux jours de débat.
Alors en fait, je vais commencer par remercier, bien sûr, l'ambassade de France et l'Institut de France pour avoir organisé ce moment d'échange qui a été très riche, en fait. Qui a été très riche parce qu'il a mis finalement autour de la table des porteurs de connaissances issus de différentes disciplines scientifiques, différents axes, mais aussi des citoyens, des acteurs locaux, pour apporter à la fois les connaissances issues du monde académique, mais aussi les connaissances de terrain, les connaissances locales, avec toutes leurs nuances et toutes leurs complexités. Le deuxième volet, c'est que finalement, de quoi on a parlé? On n'a pas parlé de pessimisme ou d'optimisme, je pense. On a parlé d'être informé, d'être lucide et d'être responsable. Enfin, on a parlé de porter des transformations. Pas de les subir, mais de les porter. On a parlé du potentiel d'action qui va dépendre aussi de la volonté citoyenne, qui va dépendre de la volonté politique, et donc très profondément... qui pose la question des processus de délibération, qui pose profondément la question de construire des stratégies, pas de les subir, mais de les construire en se projetant dans un temps long, avec à la fois un mélange de vulnérabilité et d'opportunité. Il y a des choses dont on n'a pas trop parlé. De quoi on n'a pas trop parlé? On n'a pas trop parlé des réticences au changement. Elles sont présentes. On a parlé un peu de dissonance cognitive, mais il n'y a pas que ça. Alors parlons un peu de cynisme. Pourquoi parler de cynisme? Parce que ce qui a retardé la prise de conscience, ce qui a retardé l'action, c'est aussi le rôle de marchands de doutes structurés qui ont choisi délibérément de faire une large place à la désinformation, finalement de rompre ce pacte de confiance entre la science et la société, des acteurs industriels, du secteur en particulier pétrolier aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons. C'est le cynisme du passé, c'est-à-dire faire en sorte de construire une désinformation pour retarder la prise de conscience et la compréhension du consensus scientifique ou du degré d'urgence. Mais il y a d'autres formes de cynisme qui s'expriment aujourd'hui. Quelles sont ces formes de cynisme moderne? C'est par exemple de faire croire que poursuivre sur l'exploitation des énergies fossiles, comme dans le passé, c'est ce qui est le meilleur service à rendre pour un développement soutenable de nos sociétés en se cachant finalement derrière une aspiration à consommer des classes moyennes partout dans le monde. C'est la forme de cynisme la plus répandue aujourd'hui. Donc je pense que c'est important de voir aussi ce cynisme qui est simplement un alibi pour continuer comme avant, hein, sans vraiment mener de transformation profonde. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'était la question du choix. On a beaucoup parlé de choix, on a parlé d'éthique, on a parlé des multiples dimensions de choix, on a parlé de choix volontaires, on a peu parlé des capacités à agir. Les capacités à agir sont très différentes. Et je veux terminer sur ce volet-là, par le travail que je mène dans le cadre du GIEC avec des chercheurs du monde entier. Je suis amenée à interagir avec des acteurs du monde entier, dont beaucoup dans les pays émergents, dans les pays en développement. Ce que j'entends de ce côté-là, c'est une volonté d'agir très forte. C'est en fait un sentiment d'urgence qui est bien plus grand. Parce que dans ces pays, souvent, les activités économiques, les revenus des gens dépendent directement des conditions environnementales. Une partie plus importante du PIB dépend de l'agriculture ou de la pêche. Et dès qu'on a des aléas météorologiques, on a des mouvements de population parce que c'est une stratégie normale d'adaptation pour avoir un revenu et faire vivre sa famille. Donc la prise de conscience, elle est différente dans les différentes régions du monde. Dans ces pays, il y a aussi une conscience très aiguë de la responsabilité historique des pays développés, de différentes manières, y compris par notre histoire coloniale et par l'inégalité des forces en présence dans les échanges internationaux aujourd'hui. C'est très présent. Donc la question de la justice, elle a aussi, elle n'est pas forcément vue de la même manière dans les différentes régions du monde. Et puis ce que j'entends aussi, c'est l'envie de faire autrement. L'envie dans des villes, l'envie dans des acteurs de la société de construire un nouveau modèle de développement qui soit inscrit aussi sur des coopérations sud-sud, entre l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Afrique. On voit émerger ça aussi comme une force très forte. L'envie de construire un autre modèle de développement en revendiquant aussi des savoirs locaux, des savoirs traditionnels, en plus des connaissances technologiques modernes. Et cette réflexion, elle s'accompagne aussi d'une aspiration très forte à avoir accès aux technologies les plus performantes, à avoir accès à des marchés sans les barrières qui existent et qui sont présentes. Et donc je termine sur ce volet-là parce que ce qui va se passer dans ces pays émergents, dans ces pays en développement, c'est ce qui va façonner les évolutions à venir. C'est là où on a besoin d'infrastructures, c'est là où on a besoin d'accès à l'énergie, c'est là où on a des vulnérabilités qui sont les plus grandes, et c'est pour cela que la Chine ou d'autres ont cette réflexion stratégique en voyant que ce seront là les leviers de l'activité économique dans les années, dans les décennies à venir. Et donc, c'est cette dimension-là, je pense, qui est importante à construire. Certains des plus jeunes qui aujourd'hui sont actifs, les signataires des manifestes étudiants pour une transition écologique, par exemple, dans les universités, dans les grandes écoles, en France et ailleurs, eux, ils veulent construire des métiers pour demain qui ont un sens. C'est un signal qui est très profond. Et ce sens, ce n'est pas simplement gagner de l'argent à court terme, c'est aussi, en fait, avoir un sentiment de réussite dans son parcours professionnel, d'être porteur d'une amélioration de la qualité de vie, d'être porteur de solutions et pas d'amplifier des problèmes existants. On a parlé de quelques problèmes existants ici. On a parlé de la question du changement climatique. On a parlé de l'effondrement de la biodiversité. On a peu parlé des inégalités. Mais c'est le troisième volet, en fait, des enjeux majeurs qui sont devant nous. Comment arriver à concilier l'action par rapport au climat, par rapport à la biodiversité, avec une lutte contre l'extrême pauvreté, avec le fait de permettre d'avoir des conditions de vie dignes pour tous. Et c'est important, je pense, dans la manière d'aborder ces enjeux-là, d'avoir ces trois dimensions au même niveau, de les avoir dans la réflexion qu'on mène sur l'éducation pour un citoyen au XXIe siècle. L'enjeu, le thème de la réunion aujourd'hui, c'était aussi l'éducation. J'ai cherché, en fait, des guides qui existeraient sur comment est-ce qu'on peut construire une approche bienveillante pour les plus jeunes, compte tenu de la lourdeur de ces enjeux. J'ai cherché dans le monde francophone, je n'ai pas trouvé, je m'en excuse. J'ai cherché dans le monde anglophone et j'ai trouvé vraiment un guide de réflexion que je trouvais très, très, très pertinent de l'Association australienne de psychologie. Donc ce sont des psychologues, c'est leur métier. Et ils ont vraiment réfléchi à comment on parle de changement climatique aux plus jeunes en particulier avec une approche qui soit bienveillante et non pas anxiogène. Donc une approche en fait inscrite sur la psychologie positive. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent en fait qu'il y a des valeurs profondes à construire, des valeurs qui sont liées aussi à l'empathie, des valeurs liées à la coopération. Parce que finalement, ce sont des valeurs essentielles à construire et à renforcer pour nous permettre de nous épanouir dans la société, pour construire des sociétés solidaires, pour accompagner ces transformations profondes dont on parle, en fait, des modes de production, des modes de consommation, des emplois. Et finalement, ce sont peut-être les qualités les plus importantes à renforcer si on veut avoir des sociétés capables de s'interroger et de porter des transitions qui soient à la fois éthique et juste. Voilà, c'est les points que je voulais mentionner. Et pour terminer, je vais me cacher derrière une citation. C'est la citation qu'on a mise en exergue dans le rapport sur 1,5 degré sur le réchauffement climatique. Et c'est une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, je rebondis sur votre citation, qui est la suivante. En ce qui concerne l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir. On essaie de le faire, en fait, avec des méthodes scientifiques. Mais il ne s'agit pas de le prévoir, il s'agit juste de le rendre possible. Et j'espère que vous serez des acteurs pour rendre ces évolutions futures possibles. Merci.
Oui, donc en tant que philosophe, je reviens nécessairement sur cette notion de justice et je veux vraiment insister sur le fait que dès qu'on parle de changement climatique, on ne peut pas éviter de parler de justice climatique. Si on lit les rapports du GIEC, si on lit les accords internationaux, des notions normatives reviennent sans cesse, les notions de capacité, les notions de responsabilité, les notions de dignité, c'est des notions intrinsèquement éthiques, intrinsèquement philosophiques et intrinsèquement normatives. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas éviter de discuter de la justice dans toutes ses modalités. Il y a la justice distributive, la justice participative, mais aussi la justice globale et la justice intergénérationnelle. Donc c'est un terme qui revient sans cesse dans les discussions sur le climat, et notamment dans ce séminaire, on parle des relations intergénérationnelles. Initialement, le champ de la philosophie qui s'appelait l'éthique ou la justice intergénérationnelle était un champ qui réfléchissait à nos responsabilités sur le temps extrêmement long. On se projetait des dizaines de générations plus tard pour savoir quelle était notre responsabilité envers les générations distantes. Avec le phénomène d'accélération climatique, ce qu'on réalise maintenant, c'est que les relations intergénérationnelles sont les relations entre des vivants. Et c'est important de comprendre ça. La génération, c'est une notion extrêmement abstraite, mais il ne faut pas en faire une entité absolument métaphysique. Les générations sont enchevêtrées les unes avec les autres. Nous avons toujours plusieurs générations qui vivent en même temps. les parents, les enfants et les petits-enfants. On a beaucoup parlé de la relation plutôt sur le mode de la confrontation avec le phénomène OK Boomer et ainsi de suite. Et ce qui est impératif de mettre en œuvre à partir d'aujourd'hui et qui est en train de se mettre en œuvre étant donné que également des membres des générations plus anciennes participent également aux grèves sur le climat, c'est aussi sur le mode de la collaboration intergénérationnelle. Il faut le faire non seulement parce que c'est une question de justice, mais c'est aussi une question d'intérêt. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est dans l'intérêt des parents de lutter contre le changement climatique du moment où ils prennent en compte l'intérêt de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Donc il faut parler aussi d'intérêt intergénérationnel. Ce n'est pas qu'une question de justice ou de responsabilité envers les générations futures, c'est aussi nous, en tant que parents ou de personnes qui connaissent des parents, de protéger les enfants et les petits-enfants. Donc c'est important de dire que ces questions de justice intergénérationnelle concernent des générations toujours plus proches et des générations qui existent déjà aujourd'hui. Et au niveau de la responsabilité et des questions envers les générations, ce qui est important de comprendre, c'est que d'une part, il faut déjà en parler toujours au pluriel, les générations. Nous sommes les premières générations à prendre conscience de la gravité du problème. Cela remonte notamment à la publication du premier rapport du GIEC en 1990. Donc nous sommes, les générations vivantes aujourd'hui, les premières générations à prendre conscience du problème, de la gravité et de l'urgence, mais en même temps, nous sommes les dernières générations à pouvoir y faire quelque chose avant que le changement climatique ne devienne autonome ou avant qu'on ne puisse plus faire grand-chose pour éviter un changement climatique dangereux. C'est pour ça qu'il y a cette notion d'urgence. Nous sommes les premières et les dernières générations à pouvoir faire quelque chose. Et je voudrais terminer sur une réflexion autour des familles d'acteurs qui peuvent jouer un rôle contre le changement climatique. Pour catégoriser, il y a trois grandes familles d'acteurs qui peuvent jouer un rôle pour lutter contre le changement climatique. Au niveau collectif, c'est les États-nations. Avant tout, et quand on parle de justice climatique, c'est souvent la responsabilité des pays qu'on mentionne, la capacité des pays, la responsabilité des États-Unis, de la Chine, ainsi de suite. On a très longtemps parlé de l'importance du niveau international, mais depuis l'échec de Copenhague en 2009, nous ne pouvons plus seulement compter sur le niveau international. Il faut aller vers ce qu'on appelle une gouvernance polycentrique. Il faut plusieurs centres de pouvoir qui agissent en même temps. Donc le niveau international, mais aussi le niveau national, et aussi le niveau communal. Il faut toujours descendre plus bas dans les échelons pour mobiliser l'action à tous les niveaux. Il n'est plus suffisant d'attendre de l'action au niveau international aujourd'hui. Et quand on descend dans les échelons, on arrive au deuxième type d'acteur qui est important, c'est l'acteur individuel. Quand on parle de responsabilité individuelle, de devoir de réduire son empreinte carbone, on est typiquement dans ce cas-là. Et le troisième type d'acteur, peut-être on en parle un peu moins souvent dans les débats sur la justice climatique, mais ils sont tout aussi importants, c'est les entreprises. Les entreprises, notamment qui exploitent les combustibles fossiles, conventionnels et non conventionnels, ont une double responsabilité. Ils ont d'abord la responsabilité d'avoir contribué massivement aux émissions de gaz à effet de serre, mais également la responsabilité, du fait de ce que Valérie Masson-Delmotte mentionnait tout à l'heure, c'est des marchands de doute. Ils ont manufacturé le doute, ils l'ont créé et ils l'ont maintenu. Cela implique qu'ils ont une double responsabilité également de lutter contre le changement climatique. Et je veux terminer peut-être sur cette notion importante qui est celle des valeurs. Donc les éthiciens réfléchissent énormément sur les valeurs. On a mentionné les valeurs d'empathie et de solidarité. Je pense que les notions de bienveillance doivent être mises en avant. Donc il faut aller puiser dans cette richesse qu'on a dans l'histoire de la philosophie, de l'éthique des vertus, relire les grands classiques Aristote et Épictète pour comprendre ce que sont ces valeurs et aussi pour comprendre qu'elles nous parlent. Il ne s'agit pas seulement de justice, mais aussi de vivre bien. Et ça rejoint les discussions qu'on a eues sur le bonheur. Respecter les principes de la justice n'est pas un sacrifice, c'est aussi quelque chose qui peut nous amener à une vie meilleure, une vie plus heureuse. Et il faut vraiment changer les perceptions sociales sur ce que c'est de vivre de manière durable. C'est souvent perçu comme manière négative, le fait de ne pas pouvoir s'afficher avec une grande voiture, ainsi de suite. Il faut que ces perceptions sociales changent, et ce changement ne peut pas se faire top-down par le haut, il doit se faire bottom-up par le bas. Et il faut contribuer à ce mouvement en insistant sur le fait que, justement, adopter ces valeurs, que sont la bienveillance, l'empathie, la tempérance, la sobriété, peuvent être également des facteurs de bonheur individuel. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup.